Le chef djihadiste al-Baghdadi réapparaît et entérine la nouvelle stratégie de l'État islamique dans une vidéo, sa première apparition depuis 2014. Le leader du groupe État islamique se met en scène en chef de guerre pilotant une organisation revenue à la clandestinité. Bonjour Olivier Roy.
Bonjour.
Vous êtes politologue spécialiste de l'islam, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence et vous avez notamment publié « Le djihad et la mort » et « L'Europe est-elle chrétienne » aux éditions Stock. Que peut-on dire sur ce message, ce nouveau message d'al-Baghdadi ?
D'abord, c'est une espèce d'éloge funèbre, non seulement pour le mouvement lui-même, mais pour tous les commandants, tous les djihadistes qui sont morts. Ensuite, c'est la reconnaissance qu'il a perdu le territoire, mais que ça n'a pas d'importance. Nous sommes nulle part et partout. Nous sommes un mouvement international. Il ne donne aucun soutien, par exemple, à des mouvements comme en Algérie. Il se désintéresse complètement des mouvements politiques. C'est le djihad, encore le djihad, partout, tout le temps, et nulle part d'une certaine manière.
Pourquoi si peu de messages ? Alors, bon, celui-ci prouve que Baghdadi est vivant, Olivier Roy, et néanmoins c'est un homme discret, il a peut-être intérêt à être discret, mais dès lors on s'interroge pourquoi si peu de prise de parole et pourquoi prendre la parole aujourd'hui ?
Parce qu'il n'a plus de territoire, et c'était la définition même de l'État islamique, d'avoir conquis tout cet espace en Syrie et en Irak. Donc il faut prouver qu'il existe d'abord, et ensuite qu'il a toujours une stratégie de djihad.
Et quelle peut être justement cette stratégie ? Est-ce qu'il peut désormais imaginer une transformation, alors transformation rendue obligatoire par les défaites de l'EI ? Est-ce qu'il peut poursuivre la guerre de manière médiatique ?
Il le dit dans sa vidéo, c'est attentat, 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 partout, tout le temps, dès qu'on peut, par tous les moyens, etc. En même temps, on peut pas dire que ça soit un grand succès. On voit très nettement qu'il y a une diminution non seulement du nombre des attentats, mais d'une certaine manière la qualité des attentats. Et puis surtout, que l'organisation ne met pas en place une structure de survie sur le long terme. On le voit bien ce qui se passe au Sri Lanka.
Justement, pour le Sri Lanka, on sait désormais que parmi les terroristes qui ont tué 250 personnes dans des églises et des hôtels le jour du dimanche de Pâques au Sri Lanka, Olivier Roy, deux frères islamistes ont joué un rôle clé, deux frères avec un profil un peu surprenant pour ceux qui pensent que les terroristes sont nécessairement des déshérités.
Je dirais que c'est assez classique. Dans toutes les cellules terroristes qui ont agi, par exemple, sur le territoire de la France et de la Belgique, on trouve des fratries. C'est une constante du mouvement djihadiste. On le voit bien avec les frères Klein en particulier. Donc ça montre qu'il y a une dimension profondément générationnelle dans ce mouvement. Ensuite, au Sri Lanka, c'est toute une famille. Et toute cette famille, à commencer par son chef, s'est fait sauter lors des attentats. Donc on ne voit pas du tout comment une telle stratégie pourrait maintenir l'organisation sur le long terme. Si les meilleurs militants, si le chef lui-même se fait sauter dans la première opération qu'ils font, qu'est-ce qui va se passer après ? Donc on peut penser que dans l'esprit d'al-Baghdadi, il y aura une autre famille qui va reprendre le flambeau, etc. Mais ça montre qu'il n'y a aucune stratégie d'enraciner l'organisation de Daesh dans la population locale. On reste dans une perspective qui est profondément suicidaire.
Oui, et alors, donc il s'agit d'une fratrie. Alors, vous dites que c'est un cas récurrent et on se souvient de nombreuses fratries effectivement impliquées dans des attentats. Et puis, on sait alors par exemple que ces deux frères aimaient sillonner la capitale du Sri Lanka en voiture clinquante, ils poursuivaient des carrières prometteuses. C'est ça qui est un peu étonnant, Olivier Roy. Et on n'a pas du tout affaire à des jeunes gens désespérés. Ils étaient a priori promis un bel avenir.
Oui, c'était des gens de la grande bourgeoisie. D'autre part, c'était pas des gens qui avaient une imprégnation salafiste. On voit une espèce de basculement comme ça, de gens qui sont normaux, bien intégrés, bien insérés, et qui d'un seul coup, en quelques mois, basculent dans le radicalisme et dans le radicalisme djihadique, sans passer par des années de vie religieuse plus intense, etc. Ils sont tout de suite fascinés par l'action et, en l'occurrence, par la mort.
Comment vous expliquez cela? Alors, vous n'êtes pas psychologue, Olivier Roy, et vous êtes sociologue et politologue. Néanmoins, comment peut-on imaginer que des jeunes gens qui ont a priori un avenir tout tracé, eh bien, décident de se donner la mort?
Ben, je crois que pour eux, la vie d'un seul coup perd tout son intérêt. Il y a quelque chose comme ça. Et de même qu'on a dans la tradition chrétienne des gens de très bonne famille qui vont aller au monastère de la Trappe, de même dans ce type de famille, on a des jeunes qui vont se retirer du monde, et cette fois évidemment en tuant, c'est ça la, oui. La grande différence.
En se tuant
eux-mêmes.
Et oui, mais alors c'est justement ça qu'on a du mal à comprendre, parce que lorsqu'on se retire comme un ermite, eh bien, on peut imaginer que l'on aide au salut de l'humanité. Lorsqu'on se livre à ce type d'abomination, en revanche, on a une toute autre logique. Comment peut-on freiner ce type de passage à l'acte? Du coup, c'est très difficile d'imaginer ces logiques, qui sont des logiques quand même très opposées à nos modes de vie, qui sont plutôt des modes de vie hédonistes et, Dieu merci, pacifiques, Olivier Roy.
Oui, c'est une dimension suicidaire. On se suicide en tuant le maximum de personnes, en entraînant le maximum de personnes dans sa mort. Et c'est ça l'originalité, si je peux dire, de ce type de radicalisme. Alors, comment faire par rapport à ça? Bon, on n'empêchera jamais un jeune ou quelqu'un de passer à l'acte. Ce qu'on peut limiter, c'est l'impact et surtout l'effet d'entraînement. Voilà, c'est ça qui est qui est l'enjeu. C'est-à-dire le fait qu'il ne soit pas suivi. Il faut en quelque sorte déconsidérer, faire perdre leur prestige de héros à ces gens-là. Et je crois que la défaite territoriale de Daesh joue un rôle quand même en faisant perdre ce prestige du héros djihadiste. Mais on va pas résoudre le problème comme ça. On en aura encore d'autres. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se transformer en mouvement. Voilà. Et ça, bon, pour le moment, non, il y a absolument aucun signe qu'il y a une partie de la population musulmane ou convertie qui les suivent. Ce sont toujours des actes individuels ou familiaux.
Merci beaucoup, Olivier Roy. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste de l'islam et vous avez notamment publié « L'Europe est-elle chrétienne ?» aux éditions Stock.